Les applaudissements n'étaient pas nécessaires. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, j'ai l'impression de ne pas m'entendre. Est-ce que vous m'entendez bien, toutes et tous ? Moyen, moyen. Alexis, on peut mettre un peu de puissance ? Voilà, c'est la sobriété énergétique qui commence peut-être, hein, au milieu de l'église. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes heureux d'être là ce matin, de retour de vos congés. Pour la plupart, le Seigneur, lui, n'était pas en congé, il prenait soin de nous, de chacun d'entre nous, et il s'occupait de nous. Et ça, c'est vraiment extraordinaire de savoir un Dieu qui est tout le temps présent à nos côtés. Alors, je ne sais pas si vous avez fait vos devoirs de vacances. Alors, pour ceux qui étaient au mois d'août, j'avais proposé une lecture que nous allions étudier durant le mois d'août sur le livre d'Esdras. Et puis, j'avais proposé que chacun, à la maison, vous puissiez lire ce livre qui est pertinent pour l'Église aujourd'hui encore. Le livre d'Esdras raconte l'histoire d'un nouveau départ pour le peuple de Dieu, d'un renouveau du peuple de Dieu. Le peuple d'Israël est en exil depuis 70 ans et voilà que le Seigneur réveille l'esprit d'un empereur babylonien qui s'appelle Cyrus et réveille l'esprit de personnes qui étaient installées dans le pays de Babylone depuis 70 ans pour rentrer dans le pays d'Israël. Donc c'est vraiment un nouveau départ. Et nous en sommes arrivés au chapitre 4 d'Esdras. Voilà. Mais peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, je vais faire un petit peu un récap pour les retardataires. Mais je vous invite aussi à aller sur le site internet. J'ai pu mettre cette semaine les trois prédications sur le livre d'Esdras sur le site internet. Notre lecture du livre d'Esdras a pour but de voir quel élément avait contribué au renouveau du peuple de Dieu. Esdras 1 nous avait conduit à souligner la souveraineté de Dieu sur les temps et sur l'histoire des hommes. Parce que Dieu est non seulement souverain, mais il est aussi agissant dans l'histoire. Il intervient au sein de l'humanité. Le Seigneur qui se révèle dans la Bible, le Seigneur Dieu qui se révèle dans la Bible, n'est pas le bon Dieu sur un nuage qui est là, un petit peu passif. Il est là et il intervient dans la vie des hommes et de l'histoire de l'humanité. On voit que dès les premiers versets du chapitre 1, c'est Dieu qui réveille l'esprit de Cyrus pour autoriser le peuple judéen à retourner à Jérusalem et à rebâtir le temple. Cette vision de la souveraineté de Dieu sur le temps et sur l'histoire n'exclut aucunement la responsabilité des hommes. Avoir une vision juste du Dieu qui est souverain sur toute chose est un élément du renouveau dans nos vies. Esdras 2 nous a conduit à considérer le rôle de la repentance dans le renouveau du peuple de Dieu. Sans retour sur soi devant le Seigneur, il ne peut avoir de retour dans le pays que Dieu a promis. Pour revenir à Jérusalem, il faut revenir au Seigneur. Et nous avions vu que la repentance est une grâce et une bonne nouvelle. Elle fait partie intégrante de l'Évangile. Si le Seigneur vous conduit d'une manière ou d'une autre à la repentance, considérez cela comme une œuvre conduite par la bonté de Dieu et non pas par un jugement qui vous écrase. Face à la vérité de la parole et de la sainteté de Dieu, le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. On ne peut faire l'économie de la repentance si nous voulons vivre un renouveau dans nos vies. Et j'espère que durant cet été, vous avez pu dire en rentrant en septembre, je veux vivre quelque chose de nouveau. Voilà. Et j'espère que chacun d'entre nous, en tant qu'Église aussi, en tant que communauté, Seigneur, nous avons envie de vivre un temps de renouveau ensemble. Esdras 2 nous avait aussi appelé à reconsidérer notre vocation. Nous avions vu que le peuple de retour d'exil était composé en très grande partie de sacrificateurs, de nombreux serviteurs dédiés au temple, des chantres, des portiers, des servants. Pendant 70 années, ce peuple qui était en exil n'avait pu accomplir leur vocation. Et là, de retour dans le pays, les voilà de nouveau dans leur sens de leur vie. Quand le Seigneur nous attire à lui, il ne nous attire pas simplement pour nous faire du bien, pour nous pardonner, il nous attire aussi pour que nous puissions rentrer dans la vocation qu'il nous appelle. Nous sommes appelés à être des prêtres et des sacrificateurs pour Dieu, les uns et les autres, ensemble, dans l'unité du corps de Christ. Et avec le chapitre 3, nous avons vu que le renouveau que vit le peuple de Judée, que cette unité spirituelle se fait autour de l'autel. Pour vivre un renouveau, il nous faut revenir au fondamental. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Pour vivre un renouveau, l'Église ne doit pas simplement compter sur ses responsables, c'est l'Église entière dans son unité qui revient à l'autel et revient à Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Et puis nous avons vu pour terminer la semaine dernière que Dieu n'est pas un Dieu austère, il n'est pas omnubilé par le péché, mais il sait que le péché est l'obstacle à la joie, d'où la nécessité des sacrifices dans l'Ancien Testament. Sacrifices qui sont simplement l'ombre du sacrifice de Jésus-Christ. La joie est un fruit de l'esprit, une conséquence du salut, une source qui coule de la croix, un signe de renouveau du cœur. Parce que l'évangile est joie, le christianisme est joie. Sans la joie, le christianisme n'a pas de valeur. Dans le bouddhisme, lorsque vous voyez les statues, toutes les statues du Bouddha sont fermées. Lorsque vous visitez des églises où il y a représentation de saints, on peut visiter des églises, n'est-ce pas, où il y a des saints, vous allez regarder et tous les saints ont les yeux ouverts et le visage rayonnant. Pourquoi ? Parce que la joie est un fruit de l'évangile. La joie fait partie de l'évangile. Dans le renouveau du cœur, l'espérance est renouvelée. Alors, on avait terminé la semaine dernière de dire que dans ce temps de pèlerinage que nous vivons, les rires et les pleurs sont mêlés dans notre temporalité, mais un jour, les pleurs cesseront. Ça, c'est l'espérance aussi de la vie chrétienne. Un jour, les larmes cesseront, et c'est la promesse que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse. Mais pour l'instant, dans notre vie chrétienne, sans être triomphaliste, eh bien, les rires et les pleurs s'entremêlent. Ça, c'était la fin du chapitre 3. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible au chapitre 4 du livre d'Esdras et nous allons lire cela ensemble, les 5 premiers versets. Pour ceux qui n'ont pas la Bible ou leur petit téléphone, j'ai mis le texte derrière. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les anciens déportés reconstruisaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent trouver Zorobabel et les chefs des groupes familiaux pour leur dire « Nous allons vous aider à reconstruire ce temple, car nous invoquons le même Dieu que vous et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Arhadon, roi d'Assyrie, qui nous a déportés ici. » Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des groupes familiaux d'Israël leur répondirent « Il nous appartient à nous et pas à vous de bâtir un temple pour notre Dieu. Nous seuls devons construire cet édifice pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme l'a ordonné Cyrus, le roi de Perse. » Alors les gens du pays découragèrent les Judéens et les effrayèrent pour qu'ils cessent de bâtir. Ils soudoyèrent des conseillers pour s'opposer à eux et faire échouer leur entreprise. Ils y parvinrent durant le règne de Cyrus et jusqu'au règne de Darius, tous deux empereurs de Perse. Et nous allons sauter les versets 6 à 23 et nous allons lire le verset 24. Dès lors, les travaux de restauration du temple de Dieu à Jérusalem furent interrompus. Cette interruption se prolongea jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse, c'est-à-dire 16 ans. Alors j'ai sauté délibérément les versets 6 à 23, non pas parce qu'ils ne seraient pas intéressants, rien dans la Bible n'est inintéressant. Je les ai sautés simplement parce que c'est une partie qui ne suit pas la chronologie des événements. L'événement, l'auteur a voulu rajouter des documents, des lettres, à l'occurrence au roi Xerxès et Artaxerxès, si j'arrive bien à les prononcer, qui parlent de la même thématique. Quelle est cette thématique? C'est celle de l'opposition que connaît le peuple de Dieu dans le renouveau, dans sa quête de renouveau. Nous avions fini le chapitre 3 avec la ferveur du peuple qui posait les premières pierres de la fondation du temple. Et nous avions vu qu'il y avait des joies et des pleurs qui résonnaient. Les sacrificateurs étaient en habit. C'était vraiment une fête extraordinaire. Et là, cette joie, cette ferveur du peuple, cet enthousiasme renouvelé va susciter une opposition, va susciter un conflit. Et le chapitre 4 que nous venons de lire, le début du chapitre 4, eh bien, décrit l'ouverture des hostilités et le premier long recul des travaux dus à l'opposition. Cette opposition qui va se manifester tout au long des années, même au changement d'empereur. Et cette opposition va se manifester par de multiples manières, par la séduction, par un appel à la compromission, par de la frayeur suscitée, peut-être par de la violence physique, par de la calomnie, par le soudoiement d'officiels. Tout est bon pour arrêter le renouveau au sein du peuple de Dieu. Alors, mes amis, une première leçon. Ne croyons pas que lorsqu'on marche avec le Seigneur, tout sera comme sur un long fleuve tranquille et que tout sera facile. Le renouveau dans nos cœurs et dans nos communautés va susciter pratiquement toujours une opposition, d'où qu'elle vienne. Souriez quand même, hein, parce qu'il y a quand même un renouveau à la clé. Hein, et pas simplement que des obstacles, pas simplement qu'une opposition, mais la victoire de Dieu au sein de l'opposition. Effectivement, c'est souvent le cas lorsque l'œuvre de Dieu va de l'avant. Le peuple de Dieu doit être conscient qu'il y aura de l'opposition. L'apôtre Pierre nous rappelle que nous avons un adversaire, un ennemi qui rôde autour de nous. Votre adversaire. Et cet adversaire, son boulot, son job, c'est de nous arrêter, à chercher à nous arrêter dans l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Jésus lui-même a averti ses disciples. Tout comme lui, le maître a eu à subir de l'opposition, les disciples, qui ne sont pas plus grands que le maître, auront aussi à subir de l'opposition. Et donc voici une pensée dont nous avons à nous armer, nous dit l'apôtre Pierre encore. Armez-vous de cette pensée. On ne fera jamais l'unanimité en tant que croyant. Nous aimerions être aimés, mais nous ne serons pas aimés. Et pourtant, nous sommes appelés à aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Je répète cette phrase. Ça fait toujours du bien de répéter les choses pour qu'elles s'inscrivent dans nos cœurs. On ne fera jamais l'unanimité en tant que croyants. Nous aimerions être aimés, mais nous ne serons pas aimés. Et toutefois, nous sommes appelés à aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Alors, regardons un peu plus près notre texte. Je vais boire un coup, parce que j'ai la bouche sèche. Excusez-moi. Hein. Des personnes, bien que le texte nous dit qu'ils étaient des ennemis, le verset 1 commence par dire qu'ils étaient des ennemis, s'avancent pour proposer leur aide aux anciens exilés. Ils proposent leur aide pour la reconstruction du temple du Dieu d'Israël. Ils argumentent qu'ils servent le même Dieu qu'eux et qu'eux aussi, ils étaient des exilés. Mais les dirigeants judéens, Zorobabel et Josué et les autres, leur répondent sur un temps très ferme et refusent catégoriquement leur aide. C'est à nous, et non pas à vous, de construire le temple du Dieu d'Israël. À première vue, la demande des gens du terrain de se joindre au projet de construction semble assez raisonnable. Si vous allez voir Philippe, si vous allez voir Ludovic, pour dire « est-ce qu'on peut venir t'aider pour construire ta maison ?» Je ne sais pas ce que tu dirais, Philippe, hein, quoi que tu... voilà, vous ferez n'importe quoi. Hein. Non, effectivement, si quelqu'un vient vous proposer son aide pour une construction, ben, c'est super gentil. Hein. Voilà, mais bien sûr, viens. Voilà. Les exilés de retour ne seraient-ils pas heureux de toute aide qu'ils pourraient obtenir dans la grande tâche qui les attend? Et les chefs judéens disent non, c'est à nous de le faire, c'est pas à vous. Est-ce qu'il y en a d'autres qui construisent des maisons parmi nous, à part Ludovic et Philippe? Oui, il y en a, c'est vrai. D'autres? Jean et Elena, voilà, ok, très bien. Jean-Philippe, eux aussi, je crois qu'ils construisent et rénovent leur maison en ce moment, non? Si on ne creuse pas plus loin, la réponse des dirigeants juifs nous semblerait plutôt prétentieuse. Et leur réponse, une offre d'aide, la réponse à leur offre d'aide, pas vraiment gentille. Hein. Si quelqu'un vient vous proposer votre aide et vous le rembardez, c'est vraiment pas très gentil. Alors nous avons un indice qui nous permet de mieux cerner qui sont les personnes qui offrent leur aide. Ils sont les descendants de peuples qui ont été amenés par les rois assyriens au moment de la défaite du royaume du Nord. Et ils ont amené avec eux leur dieu étranger. Et ils ont commencé à faire un culte à l'Éternel tout en continuant à servir leur dieu étranger. Et ça, on peut le lire dans 2 Rois, chapitre 17, verset 33. Ce sont en quelque sorte les ancêtres des Samaritains. Alors, qu'est-ce qui est en jeu ici? Qu'est-ce qui est en jeu ici? Pourquoi les Judéens refusent l'aide de ces peuples pour construire le temple de l'Éternel? Qu'est-ce qui est en jeu? Allez, je vous laisse une minute pour essayer de répondre. Une idée? Une proposition? C'est pour vous maintenir en éveil, hein, parce que sinon je vais vous endormir au bout d'un moment. La compromission. La compromission. Ah oui, c'est parce que j'ai mis là-bas. D'accord. Effectivement. En fait, c'est le particularisme d'Israël qui est en jeu. C'est leur identité d'être un peuple à part. Un peuple qui appartient à Dieu seul. En refusant l'aide de ces gens, ils préservent leur identité. Ils n'avaient pas à ressembler aux autres peuples. S'ils avaient accepté l'aide de ces personnes, qui certes offrent un culte à l'Éternel, mais un culte dévoyé, il y avait un risque qu'ils retombent dans leur ancien péché, l'idolâtrie qui les avait conduits à l'exil 70 ans avant. Vous comprenez? Ils se seraient dilués dans la société syncrétiste du peuple de la région à cette époque-là. Dilution de leur identité, compromission de leur identité. L'Église aussi est un peuple à part. Et si nous voulons rester l'Église de Jésus-Christ, il nous faudra aussi refuser la main tendue, certaines mains tendues. Nous portons, en tant qu'Église, une vocation universelle. Nous sommes là pour témoigner de Jésus-Christ, pour bénir le monde, pour aimer les pécheurs, quels qu'ils soient, mais tout en refusant le péché. Et nous pourrons le faire que si nous préservons notre particularisme. Nous avons à résister à la phagocytose du monde. Pas de compromis avec le monde et sa pensée. La question, toute la question est d'être dans le monde sans être du monde. Nous avons à dire la beauté et la force du mariage et de la famille. Nous avons à dire que le mariage concerne un homme et une femme. Nous avons à dire que nous ne sommes pas des lapins, que la sexualité est bonne dans le cadre protégé du mariage. Nous avons à dire ce que la Bible dit au sujet de l'homosexualité, tout en aimant tous et toutes. Nous avons à dire, et j'en discutais avec Jérémy par SMS interposé, nous avons à dire que même la vie débutante doit être protégée. Comme l'apôtre Paul, nous avons aussi à recommander que les couples mixtes chrétiens et non chrétiens vont avoir des difficultés, certainement, etc., etc. Tant de sujets éthiques sur lesquels l'Église ne doit pas être silencieuse et dire. Mais ayant dit tout cela, nous avons aussi à accompagner de manière pastorale les couples en danger, ceux qui sont tombés, ceux qui vivent sous un poids de regret, de culpabilité, nous avons à accueillir. D'une main, nous avons à dire ce que Dieu veut, et de l'autre main, nous avons à dire la parole de grâce et de restauration à tous ceux qui se repentent. Mais principalement, nous avons à dire, en comptant sur le Saint-Esprit, que tous les péchés viennent d'un cœur non renouvelé, et que le Seigneur propose toujours un nouveau départ, une nouvelle naissance. Nous n'avons pas à nettoyer, comme Jésus le dit, la coupe sans préalablement avoir nettoyé l'intérieur. C'est le Seigneur qui le fait. Alors pratiquement, comment être dans le monde sans être du monde ? Devons-nous nous enfermer dans un cloître ou dans une forteresse ? Serions-nous une forteresse assiégée par le monde autour de nous ? Quelle est la bonne attitude dans le monde, mais pas du monde ? Comment faire pour que le monde ne vienne pas nous compromettre ? Comment l'Évangile reste radical pour nous ? Comment faire pour que l'Évangile reste radical pour nous ? Nous avions visité avec Chantal Blanche le 15 août, et puis Blanche, dans son fauteuil, à l'EHPAD, disait « Il faut que l'Évangile reste radical dans nos vies. » Je ne sais pas pourquoi elle nous disait ça, mais elle disait cela, et j'ai accueilli cette parole comme quelque chose de prophétique, en quelque part. Il faut que l'Évangile reste radical pour nous. Alors, comment être dans le monde sans être du monde ? Si on s'enferme dans un monastère ou dans une forteresse, on va retrouver le monde, puisque nous amenons le monde avec nous. C'est l'expérience de Luther, moine. Le modèle, c'est Jésus. Notre modèle, c'est Jésus. Jésus, que l'on appelle l'ami des pécheurs, c'est un terme que Gérard affectionne. Jésus, l'ami des pécheurs. Jésus qui mange avec des publicains et des gens de mauvaise vie. Jésus qui appelle à la repentance ces mêmes personnes. Jésus qui était sans compromis, tout en vivant parmi eux et en les aimant. Ainsi, Dieu ne nous appelle pas à une séparation physique d'avec le monde, mais vraiment une séparation morale avec le péché. Dieu a une sainte horreur du mal. Nous devrions avoir une sainte horreur du mal. Dieu aime les pécheurs éperdument. Éperdument, ce n'est pas un beau qualificatif, parce que je n'ai jamais perdu. Dieu aime les pécheurs. Nous devrions aimer les pécheurs. Deuxième opposition. L'étape suivante de l'opposition, la première n'ayant pas fonctionné, c'est celui d'effrayer et de décourager les exilés par plusieurs moyens. On menace certainement leur vie. On va voir un peu plus tard, si vous lisez tout le chapitre 4, que ces ennemis qui proposent leur aide au départ vont user de violence vis-à-vis des exilés. Il soudoie des fonctionnaires pour retarder les travaux. Les bakchiches, ça existait déjà à cette époque. Et lorsqu'on attend des matériaux pour construire, qui doivent venir du Liban à cette époque-là, et qu'on paye des fonctionnaires pour retarder les livraisons, ben les livraisons sont retardées. On écrit des lettres pour vérifier la légalité de leur action en calomniant le peuple judéen. Et puis je vous invite à lire ce qu'on dit sur le peuple juif sur les chapitres que je n'ai pas lus, du 6 à 23. C'est un peuple rebelle qui ne se soumet à rien. C'est un peuple puissant qui a conquis beaucoup de choses, etc. Pas mal un peu de relents antisémites, moi, je trouve, si vous lisez ce texte. Je vous rappelle qu'à la même époque, Xerxès, c'est le roi qu'on appelle Ahasuérus et c'est le roi d'Esther. Et je vous rappelle l'épisode d'Aman, etc., l'épisode d'Esther. Et là, ça fonctionne. Ça fonctionne. Les travaux seront arrêtés pendant 16 ans. Arrêtés dans leur marche vers le renouveau. Jusqu'à ce que les prophètes Agée et Zacharie viennent leur dire la parole du Seigneur. Chapitre 5, verset 1. Alors on peut se poser la question, pourquoi cet arrêt ? Est-ce qu'ils n'ont pas été assez forts pour résister à cette pression-là ? Ils avaient super, super bien commencé, nos exilés qui reviennent. Les portes étaient grandes ouvertes. Ils avaient compris que le souverain Dieu était souverain de l'histoire, que tout événement était sous contrôle. Ils s'étaient repentis. Ils avaient compris le sens de leur vocation. Ils avaient tout quitté pour retourner à Jérusalem. Ils avaient repris le culte et les fêtes selon la loi de Moïse, en bâtissant l'autel sur ses fondations. Ils avaient été enthousiastes et joyeux, selon l'ordre de la pose de la première pierre. Et puis là, pouf, ça se dégonfle. Le doute s'est mis en eux. Si Dieu était avec nous, tout aurait dû se passer comme sur des roulettes. Est-ce que nous, on ne dit pas ça aussi, hein, quand quelque chose ne fonctionne pas ? Je me rappelle, nous sommes jeunes mariés avec Chantal, on veut aller au Portugal, c'était notre voyage de noces, je ne me rappelle plus. Non, enfin, le contexte, le voyage de noces, je m'en rappelle. Nous avions pris une voiture qu'on nous avait prêtée et puis nous avions 2000 francs à l'époque, quelque chose comme ça. Enfin bon, c'était pas grand-chose. Et puis on part et à Lunel, on crève. Pour aller au Portugal. À Lunel, on crève. On répare la roue, ça nous a coûté le quart de notre budget pour aller au Portugal. Bon, on se pose la question, Dieu est avec nous, Dieu pas avec nous. C'était vraiment, on cherchait toujours la volonté de Dieu, être dans le point précis de la volonté de Dieu. Parce que si Dieu est avec nous, il va nous bénir. Si on a l'impression qu'il ne nous bénit pas, c'est qu'il n'est pas avec nous. Voyez ? Il a fallu quand même des années pour qu'on transforme notre façon de penser. Les événements extérieurs ne sont pas le signe que Dieu est avec nous ou pas avec nous. Dieu est avec le peuple judéen qui revient en exil. Même s'ils trouvent de l'opposition, Dieu était avec eux. Ils avaient des choses à apprendre, certes, mais Dieu était avec eux. Bon, je ne vous raconte pas l'histoire. On continue notre voyage. C'était une deux chevaux, je ne sais plus quoi. Et puis, à la frontière d'Espagne, ça, on n'arrive pas à retirer de l'argent. On doit se loger dans un hôtel, parce qu'on voulait pas, on avait peur à cette époque-là, de dormir à l'extérieur. On doit se loger dans un hôtel. Et là, je dirais, c'est plus de la moitié du budget qui passe pour aller au Portugal. Bon, du coup, on n'est jamais allé au Portugal. Et c'est encore un projet que nous avons d'aller au Portugal. Mais le Seigneur n'a jamais permis que nous allions au Portugal. Bon. Si Dieu était avec nous, tout aurait dû se passer comme sur des roulettes. Bannissez de vos pensées cette pensée-là. Mes amis, pour vivre un renouveau, il nous faut savoir que la première opposition ne vient pas de l'extérieur. Il y a un principe en nous qui n'aime pas les choses de Dieu. Et cela s'appelle, selon le vocabulaire de l'apôtre Paul, la chair. Les désirs de la chair sont en opposition avec les désirs de l'esprit, nous dit Paul à Galates, dans Galates. Zorobabel ne sait pas comment continuer. Il a épuisé ses forces. Il a oublié de dépendre de Dieu. Et il a fallu un message du prophète Zacharie pour lui dire « Voici le message que l'Éternel t'adresse, Zorobabel. Cette œuvre, tu ne l'accompliras pas par ta force ni par ta bravoure, mais par mon esprit. C'est le Seigneur des armées célestes qui le déclare. » Pour vivre un renouveau, il faut apprendre à dépendre de l'Esprit de Dieu. Savoir qu'à l'intérieur de nous, il y a une lutte. Savoir qu'à l'intérieur de nous, il y a des choses qu'il n'aime pas. Il y a ce désir, effectivement, de vouloir suivre le Seigneur, parce qu'il y a le Saint-Esprit qui a mis des désirs en nous. Et puis en même temps que nous avons ce désir de vouloir servir le Seigneur, il y a comme un désir, comme une espèce de bretelle qui nous retient et nous attire de l'autre côté. Alors, nous avons à ne pas écouter cette bretelle qui nous attire de l'autre côté, à écouter ce que le Saint-Esprit veut faire et à nous soumettre à lui. C'est peut-être ce qu'ont dû apprendre ces Judéens pendant 16 ans. Ils avaient arrêté de rebâtir. Ils avaient résisté à la compromission. Ils n'ont pas pu résister à la frayeur, au découragement. Pourquoi ? Peut-être qu'ils ont écouté ces bretelles qui les tiraient en arrière. Peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours, je ferai un message sur le livre d'Agé qui nous rappelleront cette vérité de la chair qui est contraire à l'Esprit de Dieu. Alors voilà ce que je voulais un petit peu vous dire. Je ne vais pas m'attarder davantage, mais lisez ce chapitre 4 d'Esdras qui est étonnant. Chaque fois que nous avançons dans le plan de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, ne soyons pas étonnés qu'il y ait de l'opposition, d'où qu'elle vienne. Amen. Mais regardons la fin du chapitre 5 et du chapitre 6. L'œuvre de Dieu s'accomplit et le temple est rebâti. Et c'est cela qui est important. Amen. Soyez bénis.